Le journal avec vous, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour.
Les précisions du ministre de la Santé sur la troisième dose de vaccin contre le Covid. Un rappel, début septembre, pour tous les plus de 65 ans, la Haute Autorité de Santé doit encore confirmer. Les autres titres, Laurence.
Le vaccin germano-américain Pfizer-BioNTech pleinement autorisé aux États-Unis. Une validation qui était très attendue et qui pourrait permettre de convaincre ceux qui hésitent encore, mais aussi à imposer la vaccination dans le pays. L'Afghanistan au menu d'un sommet du G7. Grosse pression sur les Américains. De nombreux pays exhortent les États-Unis à rester au-delà de mardi prochain pour sécuriser l'aéroport et permettre un maximum d'évacuations. Nice-Marseille, après le chaos de la rencontre de foot de Ligue 1, les premières sanctions de la préfecture, les supporters de Nice privés de tribune sud pour 4 matchs. Et puis Koh-Lanta, 20 ans, et de l'adrénaline à revendre pour une nouvelle saison anniversaire qui démarre ce soir sur TF1 avec des épreuves corsées comme jamais.
À 7h45, une passionnée des polars du réel, journaliste police pendant près de 30 ans au journal Libération, Patricia Touranchot revient sur Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, son livre La Traque, une réédition augmentée demain en librairie, et un documentaire le 9 septembre sur Netflix. En quoi cette affaire reste emblématique aujourd'hui, on lui posera la question. Et puis à 8h20 dans le grand entretien, Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement National, sa position sur les réfugiés afghans, le pass sanitaire, le rappel de vaccins, les règlements de compte à Marseille. Chers auditeurs, on attend aussi vos questions. 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter.
Toujours plus de 2000 patients atteints du Covid en réanimation en France et un pic en vue qui pourrait être atteint d'ici quelques jours. Déclaration hier soir d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui a livré les contours de la troisième dose du rappel du vaccin. L'avis de la Haute Autorité de Santé est attendu dans les prochains jours, mais le ministre de la Santé prépare donc une nouvelle campagne de vaccination qui pourrait démarrer début septembre et davantage de personnes seraient concernées à Neurenstein.
Alors qu'Emmanuel Macron avait évoqué il y a 10 jours seulement les plus de 80 ans, Olivier Véran demande à ses services de préparer une campagne pour plus de 13 millions de personnes.
Je postule, pour une fois, je prends un petit risque, qu'elle nous dira probablement de faire cette troisième injection chez toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, qui sont les personnes qui sont traditionnellement appelées à se faire vacciner contre la grippe.
Plusieurs études montrent en effet que la réponse immunitaire faiblit au fur et à mesure du temps, surtout pour les plus âgés, et qu'un rappel permettrait de rétablir les taux d'anticorps. Pour autant, pas la peine de s'y prendre trop tôt.
On pourrait démarrer début septembre. Il y aurait forcément, de toute façon, un délai d'au moins 6 mois entre la deuxième injection et la troisième injection. Donc que les Français ne se précipitent pas. On ouvrira la possibilité, lorsque ce sera arbitré, d'abord présenté par la Haute Autorité de Santé, puis arbitré par le Président de la République. Donc je mets beaucoup de pincettes encore dans ce que je vous dis. On ouvrira la possibilité d'avoir cette troisième injection. Dès le début septembre, pourquoi pas?
Pas question, en revanche, pour l'instant, de proposer cette troisième dose à l'ensemble de la population. L'OMS, comme la Haute Autorité de Santé, estime que ce n'est pas opportun pour le moment.
Anne Renstein. Et puis la FDA, l'Agence américaine des médicaments, autorise pleinement le vaccin Pfizer-BioNTech aux États-Unis. Le vaccin à ARN messager bénéficiait depuis décembre dernier d'une autorisation d'urgence. La décision de la FDA est la référence absolue, a déclaré le président américain, qui espère que cela va finir de convaincre les plus hésitants, mais également pousser davantage d'institutions à imposer la vaccination. Depuis New York, Loïc Loury.
La décision de la FDA, la Food and Drug Administration, est la référence absolue, se réjouissait hier Joe Biden. Ceux qui attendaient cette autorisation complète, dit-il, devraient aller recevoir leur dose maintenant. Pour le patron de la Maison-Blanche, il s'agit d'une bonne nouvelle, et cela à plusieurs titres. Cette autorisation, d'abord, pourrait donner un peu de confiance aux Américains réticents. Un adulte sur 10, selon un récent sondage, aurait déclaré être plus enclin à se faire vacciner avec un sérum entièrement approuvé. Ensuite, et c'est la volonté du président, plus d'institutions et d'entreprises pourraient franchir le pas de l'obligation vaccinale sans risquer de poursuites judiciaires. Le Pentagone a ainsi décidé d'imposer le vaccin à 1 400 000 soldats, tout comme New York à l'ensemble de son système éducatif. De quoi freiner peut-être la hausse des cas, près de 150 000 contaminations quotidiennes en moyenne actuellement. Un tiers des Américains éligibles n'ont pas reçu la moindre dose. New York, Loïc Loury, France. France Inter.
7h05, France Inter, la course contre la montre à Kaboul pour évacuer étrangers et Afghans dans l'urgence.
Le temps est compté car les talibans n'ont pas l'intention de laisser les Américains sur leur sol au-delà du 31 août, contrairement à ce que Joe Biden avait laissé entendre, une date butoir qui inquiète de nombreux pays, y compris la France, car sans la présence des Américains qui sécurisent ces évacuations, eh bien les exfiltrations seront terminées dans une semaine. D'où sans doute ce G7, ce sommet du G7 tendu. Aujourd'hui, les leaders des principaux pays démocratiques se retrouvent virtuellement. C'est Londres qui accueille symboliquement ce rendez-vous et Boris Johnson, le Premier ministre britannique, compte mettre la pression sur les États-Unis pour qu'ils prolongent leur présence militaire au-delà de la fin août. Richard Place.
Depuis le Brexit, les Britanniques font leur choix seuls. Plus besoin de composer avec qui que ce soit, leur Premier ministre le rappelle dès que possible. Aujourd'hui, il va donc monter au créneau pour demander de l'aide. Boris Johnson va rabrouer Joe Biden. C'est en tout cas ce qu'il claironne. Il veut obtenir un délai avant le retrait complet des troupes américaines encore présentes en Afghanistan. Le calendrier américain fixe un départ dans une semaine. Londres voudrait obtenir au moins 24 heures supplémentaires, le temps d'évacuer ses ressortissants, des civils afghans et enfin ses soldats. L'armée britannique ne peut pas assurer seule la sécurité de l'aéroport de Kaboul. La présence des États-Unis sur place est indispensable pour mener ces évacuations en limitant les risques. Le Royaume-Uni n'est pas en mesure de se substituer aux GIs. Boris Johnson veut donc donner de la voix. Aujourd'hui, il ne sera pas le seul à défendre ce point de vue. Pas sûr que cela suffise pour impressionner Joe Biden, encore moins les talibans qui ont déjà affirmé leur opposition à cette prolongation.
Richard Place. Qaïd Zayed, le président tunisien, toujours seul aux manettes, un mois après son coup de force nécessaire, selon lui, pour mettre fin à la corruption d'une partie des députés tunisiens. Le président annonce que les travaux du Parlement restent gelés jusqu'à nouvel ordre, alors qu'il avait promis que ça ne durerait pas plus de 30 jours. Autre promesse non tenue pour l'instant, la nomination d'un premier ministre. 200 morts, des milliards d'euros de dégâts, il n'y a pas à tergiverser. Le drame des inondations de mi-juillet en Allemagne et en Belgique est bien la conséquence du réchauffement climatique dû à l'activité humaine. Et ce sera écrit noir sur blanc aujourd'hui dans l'étude que publie l'agence météorologique World Weather Attribution. Célia Kiré.
De tels épisodes d'inondations dévastateurs risquent bien plus de se produire aujourd'hui en Europe de l'Ouest ou en Europe centrale à cause du changement climatique. Selon la modélisation des scientifiques, des pays comme l'Allemagne ou la Belgique ont une à 9 fois plus de probabilité d'y être confrontés. Et d'ailleurs, cette équipe de chercheurs le montre, de telles précipitations sont 3 à 19% plus abondantes. Il a pu tomber en Allemagne plus de 90 mm de pluie sur une seule journée, ce qui dépasse les records précédents. Or, ces résultats concernent tout autant l'Est de la France qui n'est pas épargnée par cette menace. Tout cela est bien dû au réchauffement. Les scientifiques ont en effet procédé à des simulations pour voir si de telles pluies auraient pu avoir lieu si la température globale n'avait pas déjà grimpé. La réponse est non. Elles auraient eu moins de chances de se produire et elles auraient été moins intenses. Cette étude va donc dans le sens du rapport du GIEC. L'homme est bien responsable de ces événements et plus la température monte, plus le risque de précipitations extrêmes ou d'inondations augmente. Voilà à nouveau un message d'alerte. Sans action sur les émissions de gaz à effet de serre, ces événements deviendront de plus en plus incontrôlables.
Célia Kiré. Après le chaos du match Nice-OM de dimanche soir, les premières sanctions, le préfet des Alpes-Maritimes a annoncé hier soir la fermeture pour les 4 prochains matchs disputés à domicile de la tribune sud du stade de Nice. Bernard Gonzalez au téléphone de Maxime Baquier de France Bleu Azur.
De la fermeture de la tribune populaire sud où les incidents ont éclaté pour les 4 prochaines rencontres qui seront disputées à domicile. Parallèlement, j'ai demandé, et tout le monde en a été d'accord, la mise en place dans les meilleurs délais d'un filet anti-projection devant, justement, devant cette tribune populaire sud où se concentrent, et vous le savez comme moi, les supporters les plus virulents. Et dans le même état d'esprit, j'ai demandé qu'il y ait une étude rapide pour la mise en place d'un dispositif renforcé de protection et d'isolement de la tribune visiteur, filé devant la tribune, plexiglas sur les parois latérales. Je pense qu'il était absolument indispensable de marquer le coup en condamnant très fermement ce qui s'est passé et qu'on puisse laisser de nouveau la place au sport.
Le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, et d'autres sanctions suivront. Elles seront décidées par la Ligue de football professionnel. Elle a convoqué les deux clubs dès demain en commission de discipline. Les 16e Jeux paralympiques, ils démarrent aujourd'hui à 13h heure française. Cérémonie d'ouverture pour le coup d'envoi de cette 16e paralympiade. Les premières compétitions sont prévues la nuit prochaine avec notamment depuis le Japon, la natation et l'escrime. Objectif de la France, rapporter 35 médailles, 7 de plus qu'à Rio. Il y a 5 ans, à Tokyo, Guillaume Batin.
La France pourra compter sur des valeurs sûres, des athlètes déjà médaillés, toujours aussi performants. En chef de file, Marie-Amélie Le Fur, montée à 8 reprises sur un podium paralympique. Elle tentera l'or dans le 400 mètres et en saut en longueur, dont elle détient le record avec 6 mètres 14. Les deux porte-drapeaux, Stéphane Houdet, champion olympique en titre, du double en tennis fauteuil, la judokate Sandrine Martinet, tenante du titre en moins de 52 kilos. En paratriathlon, le Normand Alexis Anquincan est le grand favori, triple champion d'Europe, triple champion du monde, comme Fabien Lamiro et ses deux médailles d'or en simple et en équipe à Rio en tennis de table. L'équipe de France pourrait aussi connaître de belles surprises avec Dimitri Pavadé en saut en longueur et Nelia Barbosa en para-kayak. Ce sera plus difficile en revanche dans des disciplines que les Français découvrent aux Jeux paralympiques, comme la boccia, cette version italienne de la pétanque adaptée aux athlètes les plus lourdement handicapés.
Guillaume Batin. Et à suivre à Tokyo, la grenobloise Isabelle Lafaille en tennis de table. 58 ans, 7 médailles depuis les JO d'Atlanta en 1996. D'un grave accident de la route à une vie d'athlète de haut niveau. Un parcours qu'Isabelle Lafaille a confié à Guillaume Batin.
J'ai débuté le tennis de table dans un centre de rééducation. Je me suis essayé un peu à de nombreux sports et c'est le tennis de table qui a retenu mon attention et je me faisais plaisir. Au début, c'était juste pour me faire plaisir. Mais j'entendais pas parler de handisport. Je savais même pas que je pouvais faire de la compétition en étant en fauteuil. C'était surtout pour voir mes limites, pour essayer de me dépasser dans quelque chose, me sortir du handicap, voir jusqu'où je pouvais aller physiquement. Et puis c'était aussi beaucoup pour rencontrer d'autres personnes.
Isabelle Lafaille en tennis de table. Donc, et puis à 7h20, on s'intéressera aux créateurs de ces Jeux paralympiques.
Et toujours avec Guillaume Batin depuis Tokyo. Du sport encore, mais du sport extrême. Pour ses 20 ans, Koh-Lanta revient ce soir. Nouvelle édition XXL.
Car la production a vu grand pour ce Koh-Lanta de légende. Cette saison en Polynésie française sera la plus dure de toute l'histoire du programme, prévient l'animateur Denis Brognard. 20 ans, 20 anciens aventuriers prêts à se battre pour devenir la légende d'un jeu. Alexandra Akoun.
Des candidats poussés aux limites de leurs capacités physiques et mentales.
Pourquoi êtes-vous si tombés ?
Dans des paysages toujours paradisiaques, mais qui très vite prennent des allures d'enfer, surtout quand on n'a rien à manger.
Vous m'avez mis des chèvres ici, je la garde la chèvre. Et celui qui n'est pas content, qui vient de me voir, je casse sa bouche. Moi, je suis un fou dans ma tête. Je m'en fous, je la mange, j'ai faim.
Des épreuves et rituels immuables.
Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir ?
Le tout porté par un présentateur chouchou des Français, Denis Brognard, présent depuis la deuxième saison. En 20 ans, la formule du doyen des jeux d'aventure a peu varié. C'est surtout la sélection des candidats qui s'est affinée. Un savant équilibre entre sportifs taiseux, forte personnalité et boulet.
Oh, c'est bon ! Vous restez dans l'aventure !
Je pensais être con, mais je ne suis pas !
Cocktail gagnant pour avoir à l'image ce qu'il faut d'action et d'émotion, avec des téléspectateurs qui, quel que soit leur profil, s'identifient à ces Robinson Crusoe en herbe, souffrent avec eux, même en mangeant une pizza enfoncée dans leur canapé. 6 millions de téléspectateurs en moyenne par saison, un carton que même la mort d'un candidat en 2013, suivi du suicide du médecin de l'équipe, n'est venu enrayer et qui continue à faire rêver. La production reçoit à chaque nouvelle édition plus de 25 000 candidatures.
Koh-Lanta, la légende, ce soir sur TF1 à 21h.
Voilà, et vous ferez l'épreuve des poteaux pour la peine. Laurence Thomas, le zoom dans une poignée de minutes. Cette semaine, on se glisse dans l'ombre de la présidentielle et ce matin, dans l'ombre des écologistes.